Salut tout le monde, bienvenue sur Snack. Aujourd'hui, on accueille Sacha Kridelka. Elle est créatrice de contenu avec son pseudo Amicalement Gwyn. Elle fait part de son vécu, de ses histoires pour aider ses abonnés à s'accepter tels qu'ils sont. Et on va parler de ça avec elle directement. Mais d'abord, abonnez-vous, likez cette vidéo pour nous soutenir. Et n'hésitez pas à commenter en dessous avec les différents profils que vous souhaiteriez voir dans notre émission. On commence direct avec Sacha. Salut Sacha.
Salut.
D'habitude on sert des chips, etc. Mais sers-toi, okay. C'est des spéculoos, on enregistre le matin pour une fois. Et du coup, on va se mettre dedans avec un peu de sucre.
J'adore, c'est parfait.
Sacha, tu es créatrice de contenu depuis combien de temps?
Ça va faire, à mon avis, 3 ans maintenant, quelque chose comme ça.
D'accord.
Avec on arrive près des 3 ans.
Alors, Amicalement Gwyn,
c'est ça.
Comment est-ce que ça t'est venu, cette envie de créer du contenu?
Eh ben en fait, figure-toi que j'étais à la fin de mes études, j'ai fait mon mémoire et je voulais faire mon mémoire justement sur la visibilité lesbienne en général, dans l'histoire, dans la société et tout ça. Et du coup, j'ai fait mon mémoire sur le sujet et à un moment donné, si tu veux, vu que j'étais dans une école où c'était justement à la fois artistique et à la fois communication, j'avais une partie théorique et une partie pratique. Et pour la partie pratique, j'avais pas avancé du tout. J'étais vraiment dans la merde. J'arrivais près de mes profs, j'avais rien. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse quelque chose. J'ai été mettre des affiches dans la rue. Et je me suis dit, il faut un truc pour que les gens retombent dessus. Et donc, j'ai créé le compte Instagram. Et j'avais souvent créé des comptes comme ça pour des trucs, pour de l'art ou quoi. Donc, je me disais vraiment, ça ne va rien faire du tout. Je le crée juste comme ça pour prouver à mes profs que j'ai travaillé. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, bon, ben, je vais peut-être poster des trucs dessus que j'ai appris justement dans mon mémoire. Et directement, ça a pris. Je voyais que les gens étaient super, super, super intéressés. Et donc, j'ai vraiment mis tout le contenu de mon mémoire en mini-post sur le compte. Et ça a tellement marché qu'en fait, après, une fois que mon mémoire est parti, je vais dire, est sorti, que je l'ai rendu, j'ai commencé à faire du contenu un peu plus lifestyle, quoi.
Et donc, ce compte-là, ça fait 3 ans alors que tu l'as. 68 000 abonnés, près de 68 000 abonnés.
Près de 68 000 abonnés, tout à fait.
C'est quand même un beau score. Est-ce que tu crois qu'il n'y avait pas assez, justement, de communication lorsque tu l'as créé sur l'homosexualité féminine?
Je pense tout à fait. En fait, il y avait quelques comptes déjà, mais c'était souvent des comptes avec des angles un peu plus précis, tu vois. Et moi, je suis vraiment venue... Je me souviens justement quand je faisais mes recherches, tu vois, pour mon mémoire, je devais prendre des inspirations et dire, bah voilà ce que je veux faire, voilà à quoi ça ressemble. Et quand je cherchais des inspis, en fait, je trouvais pas exactement ce que je voulais. Je pouvais dire, j'aimerais bien que ce soit un mix entre ça, ça, ça et ça, mais il y avait pas un peu ce truc où on parlait, de lesbianisme, d'homosexualité, un peu en mode chill, en fait, en rigolant, en dédramatisant et tout ça. Et donc, je pense qu'il y avait pas beaucoup, ça. En tout cas, moi, je l'avais pas trouvé. Je veux pas dire que je suis arrivée avec le produit de l'année, tu vois, mais moi, j'avais pas trouvé ce truc-là. Et donc, effectivement, je pense que ça manquait.
Pour les intéresser, tes abonnés, tu publies quoi, finalement?
En fait, c'est vraiment un mélange entre culture, actualité, lifestyle. C'est franchement un peu tout. Tant que ça touche vraiment au même sujet, c'est-à-dire que ça touche les lesbiennes, les personnes queer en règle générale. Et donc, quand il y a des actualités importantes, c'est quelque chose que je partage. Je partage aussi beaucoup de choses humoristiques. Vraiment, l'idée, c'est de dédramatiser, de parler aussi des doutes qu'on peut avoir, parce que je trouve, tu vois, qu'il y a beaucoup de pression parfois sur les personnes queer en général pour savoir où elles vont, savoir ce qu'elles veulent, et donc je partage aussi beaucoup de choses comme ça, quoi, beaucoup de choses où on dédramatise en fait tous les doutes qu'on peut avoir, toutes les choses qui peuvent se passer avec nos familles, dans nos vies, etc. Donc c'est vraiment de tout.
T'as souhaité faire ça, peut-être parce que toi-même, t'as vécu aussi des pressions au cours de ton évolution.
Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est que je trouve déjà qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis le moment où moi, je m'en suis rendu compte. Mais quand moi, j'ai compris que j'étais lesbienne, j'ai pas compris tout de suite que j'étais lesbienne, mais que j'étais queer, en tout cas. J'avais 14 ans, tu vois. Et à mes 14 ans, quand j'ai un petit peu cherché des infos, etc., je trouvais rien. C'est-à-dire que je trouvais quelques films comme ça, ici et là, quelques petits trucs, mais c'était pas du tout évident. Et les réseaux sociaux étaient pas du tout ce qu'ils étaient aujourd'hui. Et donc, en fait, je me suis vraiment sentie hyper seule, quoi, tu vois. Même dans mon entourage, il y avait pas tant de personnes à qui je pouvais me référer, tant de personnes qui se rendaient compte. Ma famille était bof acceptante aussi de ça, tu vois. Et donc, c'est vraiment cette solitude, en fait, que tu ressens en te disant, en fait, je ne sais pas où je peux trouver les réponses à mes questions. Et donc, ouais, c'est vraiment pour ça aussi que j'ai créé ça, parce que tout ce compte Amicale Manguin, que ce soit le compte Instagram, le podcast, le TikTok, peu importe, en fait, c'est vraiment ce que j'aurais aimé avoir quand j'avais 14 ans et que je me posais toutes ces questions sans avoir de réponse, tu vois.
T'avais 14 ans en quelle année ?
C'était en 2011.
Est-ce que t'as l'impression que depuis 2011, il y a quand même des changements qui ont été opérés dans la société ?
Ouais.
Et que c'est certainement plus facile de trouver des infos, etc. Mm-hmm. Tu trouves personnellement que c'est plus simple d'être homosexuel là maintenant ?
En fait, je sais pas si c'est forcément plus simple d'être homosexuel, parce qu'il y a plein de choses qui restent et qui sont compliquées. Mais en tout cas, j'ai l'impression, je pense en tout cas, que pour les personnes qui ont vraiment accès aux réseaux sociaux, il y a vraiment plus ce truc de communauté dans lequel tu peux directement te retrouver, tu vois.
Oui.
Moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, en 2011, si je voulais avoir d'autres personnes comme moi, si je voulais les trouver, j'allais devoir aller sur des trucs un peu sombres sur Internet, où j'allais devoir d'office aller dans des événements, enfin, tu vois, faire des pas beaucoup plus grands. Que ouais, maintenant, ouais. T'es dans ta chambre, t'es tout seul, toute seule, tu te poses des questions, bah ok, je vais sur les réseaux, il y a telle personne, telle personne, elle m'inspire, telle personne, je m'identifie, tu vois. Mm-hmm. Et donc, je trouve que ce truc-là est plus facile. Et je sais pas comment c'est pour les autres, mais moi, je sais en tout cas que dans mon entourage, c'est nettement mieux accepté aujourd'hui. Tu vois,
okay.
Moi, il y a une grande évolution dans ma famille, dans mon entourage, et même il y a beaucoup de jeunes que je rencontre aujourd'hui qui ont 14 ans, qui en ont déjà parlé à leurs copains, qui sont pleins à être OK avec ça. Donc, ouais, il y a une forme de facilité, en tout cas, dans ce truc-là.
Est-ce que tu te le dis directement que t'es lesbienne ou pas du tout ? Tu te dis, tiens, il y a quelque chose en moi qui m'attire vers les filles, ou bien il y a autre chose qui se passe ?
Ben, en fait, je me souviens que quand, justement, c'était un peu plus tôt encore, tu vois, même vers 7-8 ans, j'avais déjà posé des questions un peu à ma famille, j'avais dit à mon père, ouais, tu dirais quoi si je disais que j'aimais bien les filles et tout, et il me disait, mais pourquoi tu me poses cette question? Je m'en fous, qu'est-ce que tu racontes, tu vois? Et en fait, à, je dirais, 12-13 ans, je me suis rendu compte, tu vois, que je pouvais trouver mes amies vraiment très belles et que je comprenais pas toujours les trucs qu'elles avaient avec les garçons, tu vois. Mmh. Des fois, elles me disaient « Ouais, j'ai embrassé ce garçon-là, c'était génial. » Et moi, un peu plus tard, j'ai embrassé des garçons et tout. Et j'étais là « Attends, génial dans quel sens ?» Parce que j'ai pas la ref, là, tu vois. Donc, ouais, il y a des choses comme ça que j'ai remarquées. Et puis, je pense que pour beaucoup de personnes, ça se fait aussi via une rencontre, tu vois. Et moi, j'ai rencontré ma première copine quand j'avais, 14 ans. Et là, déjà, j'ai compris direct, j'étais là, ok, d'accord. Parce qu'on m'a dit, ouais, cette fille-là, elle est lesbienne, attention à toi, je sais plus pourquoi on me disait des trucs comme ça, tu vois. Et moi, je me disais, bah non, pas attention, ça m'intéresse à fond, en fait, j'ai envie d'en savoir plus. Et dû en savoir plus, bah en fait, je me suis rendu compte que simplement, j'étais intéressée par elle, tu vois.
Ouais, ouais.
Et après ça, bah, je suis restée très peu de temps avec elle. Et puis après ça, j'ai rencontré du coup ma copine actuelle. Et là, en fait, ça a été un tel coup de foudre que j'étais là en mode, ok, si j'avais des doutes avant, avec la première fille que j'ai rencontrée, là, j'ai plus de doutes, c'est sûr, tu vois.
C'est venu assez tôt,
ouais,
pour toi, et il y a certainement plein d'abonnés que tu as qui te demandent des conseils, etc. Et qui te les demandent certainement très tôt en te disant comment est-ce que je fais pour faire mon coming out,
ouais,
comment est-ce que je fais pour dire à mes amis que ça y est, je sais.
Ouais.
Il y en a plein qui te demandent conseils comme,
oui,
ça. En DM, alors ?
Oui. Il y a des trucs très mignons, parfois des trucs un peu cash, quoi. Il y a des gens qui m'envoient des messages genre « Salut, aide-moi à accepter mon homosexualité. » Et je suis là en mode « Wow !»
C'est l'appel à l'aide, quoi.
Ouais, vraiment.
Tu le ressens comme ça ?
Pour certaines personnes, ouais.
OK.
Vraiment.
Qu'est-ce que tu leur réponds d'habitude ?
Ben, en général, déjà, je leur dis qu'on a le temps. Et que vraiment, même si on se rend compte de certaines choses, on n'est pas obligé, il n'y a aucune obligation légale qui te dit que quand tu apprends un truc sur toi-même, tu dois aller le dire à toute la planète. Donc vraiment, chill. Si jamais tu as envie de le dire, let's go, essaye. Commence peut-être par des personnes dont tu connais l'ouverture d'esprit. Tu vois, je pense que le plus facile, c'est ça, c'est de trouver un petit peu des alliés, des personnes dont tu sais justement qui sont OK avec ça. Là, vas-y, essaye, mais sois sûr que tu es dans une position sécure, en fait. Parce que même s'il y a beaucoup d'évolutions, il y a aussi beaucoup d'endroits où les gens ne sont pas du tout sécures à faire leur coming out. Je pense notamment à des jeunes que j'ai rencontrés dans un contexte spécifique, où là, je sais que ça a été super mal pris par les parents. Et dans des cas comme ça, j'ai envie de dire, commence peut-être pas par ta mère ou par ton père si tu as un doute. Commence peut-être par un ami, une tante qui est vraiment super ouverte d'esprit. Commence doucement et puis passe petit à petit les étapes.
Le coming out, certainement que plein de tes abonnés te demandent comment est-ce que toi t'as fait.
Ouais.
Ils te demandent des conseils, etc.
Ouais.
Et c'est jamais très simple, en fait. Comment t'as fait, toi ?
Écoute, je me rappelle même pas avoir fait de coming out officiel. Je pense que
c'est bien, ça s'est fait naturellement alors finalement.
Ouais, je pense que ça s'est fait naturellement. En fait, je trouve que ce qui a été facile dans mon cas, c'est que je suis, on va dire, tombée amoureuse. Amoureuse est peut-être un grand mot pour la toute première relation que j'ai eue, mais en tout cas, je pouvais dire voilà, il y a quelqu'un dans ma vie et c'est une fille. Tu vois,
mmh.
Et donc j'avais pas vraiment à donner de justification sur ma sexualité en tant que telle. Je pouvais juste dire voilà, il y a une fille et je l'aime bien. Point. Et globalement, d'un côté de ma famille, ça a été plutôt bien pris, et de l'autre côté, en fait, on a juste fait un déni. Donc ça veut dire que tu dis que t'es avec une fille, super, bien sûr. On va te faire rencontrer des garçons, on va plutôt voir les choses autrement, et on va essayer de t'amener plutôt vers l'hétérosexualité, ce qui n'a évidemment pas fonctionné.
Et comment est-ce que tu l'as pris, ça ? Est-ce que tu leur en veux d'avoir fait ça ?
Ouais, je l'ai quand même mal vécu. Hein.
Oui, je me doute.
Ouais. Ouais, je l'ai quand même mal vécu. En fait, j'ai eu l'impression qu'on ne me croyait pas, qu'on se disait, ben non, elle n'est pas lesbienne, elle s'invente un peu une vie, quoi, tu vois. Mmh. Et ça a été assez compliqué pour moi, parce que du coup, j'ai fini par moi-même l'intégrer, et je me disais, mais... Du coup, attends, je ressens que je suis lesbienne, mais pourtant, on me renvoie que je ne le suis pas. Donc, est-ce que je suis folle ? Est-ce que je m'invente une vie ? Est-ce que c'est pour l'attention que je fais ça ? Enfin, même moi, j'ai intégré ces questionnements-là, et ça, c'était assez dur. Mais je pense qu'au fil du temps, les choses se sont faites, et je n'ai pas pu nier, en fait. Et je suis plutôt contente, finalement, de la façon dont ça a évolué pour moi.
T'as l'impression que tous les homosexuels, toutes les personnes queer vont passer par ce questionnement-là.
Moi, je pense qu'il y a un peu un espèce de continuum. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'on soit forcément gay, bi, hétéro. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on peut parfois être un peu plus au milieu de ce continuum-là, tu vois. Et il y a des gens qui sont très loin sur le continuum, donc qui sont vraiment gays à 3 milliards de pourcents. Et donc, pour ces personnes-là, je pense que ça peut apparaître comme quelque chose de très clair, tu vois. Mais pour d'autres personnes qui sont un peu moins sûres, est-ce que je suis bi, est-ce que je suis lesbienne, est-ce que je suis bi, est-ce que je suis gay, là, parfois, il y a énormément de questionnements qui se jouent. Et on a l'impression de manquer de légitimité à la fois par rapport à nos proches, à qui on a envie de donner une réponse claire, ou parfois qui veulent qu'on leur donne une réponse claire. Et parfois, on a l'impression de manquer de légitimité, même dans le milieu queer. Je connais pas mal de filles, par exemple, qui sont bi et qui sortent avec un garçon. Et dans le milieu queer, elles se sentent pas légitimes. Donc, il y a vraiment ce truc, voilà. Maintenant, pour le fait d'être ou ne pas être queer, je pense, moi en tout cas dans mon entourage, la plupart des gens disent franchement, je préfère l'être, quoi. Tu vois, parce que j'ai vécu des difficultés, certes, mais j'ai aussi rencontré une communauté incroyable et tout ça. Mais voilà, nous on dit ça ici aussi, dans notre vie à nous, on ne vit pas non plus tous des atrocités par rapport au fait d'être queer. Et donc, je pense que certaines personnes, évidemment, préféraient ne pas l'être dans certains contextes.
Justement, tu dis on ne vit pas tous des atrocités, et ça a tendance à bien évoluer,
ouais.
dans ce sens-là. Est-ce que tu as l'impression que la société évolue assez vite, ou il y a encore beaucoup de réticences, finalement ? Il y a encore beaucoup de personnes qui restent assez réticentes. Au niveau international, n'en parlons pas. Il y a des retours en arrière gigantesques.
Ouais, à fond.
Et au sein de l'Europe même, on entend certains partis...
Ouais.
Qui affirment des choses assez affolantes à ce niveau-là, et qui disent qu'un retour en arrière serait bénéfique pour la société. Qu'est-ce que ça te fait, toi, ça ?
En fait, c'est quelque chose qui est quand même dur à entendre, hein, quand tu vois des gens qui sont contre ton existence, c'est quand même assez intense. Moi, je le vois en plus sur les réseaux parce que du coup, j'ai une communauté qui est très bienveillante, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, qui commentent mes vidéos en étant hyper virulents. Et en fait, je pense que je suis tellement dans un microcosme très safe, très bien, que quand je vois ça, je me dis, mais c'est fou, les gens, ils sont loin, quoi, tu vois. Donc, ça fait quand même peur. Honnêtement, ça fait peur, surtout pour nos droits, en fait. Et pour notre sécurité. Tu vois, dans la vie de tous les jours, s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec qui je suis, mais qui ne m'emmerdent pas, ben, je vais dire, je m'en fous un peu. Mais par contre, si ça touche à mes droits, à ma sécurité, là, ça fait peur.
Il y a beaucoup de gens qui commentent justement tes publications comme ça. T'en reçois beaucoup des messages virulents.
Ouais.
Énormément, ouais.
Oui.
Et comment est-ce que tu les gères? Est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Est-ce que t'as réussi une fois à faire changer d'avis une personne virulente? Et qu'est-ce que tu lui as dit pour la faire changer d'avis?
En fait, je t'avoue que je ne réponds jamais. Mais vraiment, j'ai jamais répondu, je pense. Peut-être une fois il y a 2 ans. J'ai quand même peur, en vrai. Je suis assez... j'ai une vraie distance avec tous ces commentaires-là, mais j'ai pas envie que ça escalade, et donc je réponds jamais. Donc à chaque fois qu'il y a une personne qui m'envoie un message virulent, je bloque. Voilà. Et donc c'est un travail de longue haleine, hein, parce qu'il y a des centaines de personnes à bloquer.
Des centaines?
Ah oui.
Des
milliers. Ça dépend un peu de la portée de mes posts. Mais si par exemple je fais un post qui est vraiment viral, par exemple j'en ai fait un où je disais... C'était une vidéo de mon mariage, on en parlera peut-être après. Et j'ai mis « Les parents homophobes, voilà le bonheur que vous ratez ». Et en fait, j'ai reçu, mais quand je te dis des milliers sur la même publication, de messages qui disaient « on rate rien, il n'y a rien à rater, moi mon fils il est gay, je le tue, je lui fais ceci, je lui fais cela », mais vraiment des milliers quoi. Et j'en avais fait une autre aussi, où je disais « c'est fou que les gens aient peur que leur enfant soit gay », alors que littéralement, il pourrait être un serial killer ou un truc comme ça. Et les gens disaient « je choisis serial killer direct ».
Mais non.
Mais si, mais par milliers. Hein.
Des milliers de personnes
qui
te disent ça.
Des milliers de personnes qui disaient ça. Ouais.
Ah ouais, ok.
Ouais, ouais. Et là, c'est des moments quand même où je suis assez choquée, mais je bloque tout.
Tu bloques tout?
Je bloque tout, je réponds jamais.
Ok, je comprends. Est-ce que ces gens-là pensent réellement ça, ou bien c'est juste des haters, des trolls qui veulent te faire du mal, simplement? Ça paraît dingue, en fait, ça me paraît dingue de penser ça, quoi.
Ben ouais, j'ai quand même été... ça m'a quand même questionnée, quoi. Je me suis posé la même question que toi. Est-ce que vous foutez de ma gueule, ou est-ce que vous le pensez vraiment? Mais... je pense qu'il y en a qui le pensent vraiment.
Ok.
Ouais. Dans ces milliers de personnes qui ont dit ça, je prends le risque de penser quand même qu'il y en a pas mal qui le pensent.
Sur la scène numérique, ok, tu peux les bloquer. Sur la scène réelle, comment faire, tu vois? Ça t'est certainement déjà arrivé, en réalité, de te balader avec ta meuf et d'avoir des commentaires comme ça en rue, quoi.
Là, honnêtement, autant sur les réseaux, je bloque et franchement, je t'avoue, je dors très bien la nuit. Hein. Ils disent ça, ok, très bien, parfait, voilà. Mais dans la vraie vie, on fait beaucoup moins les malines. Une fois, ça nous est arrivé, on marchait en rue et il y a un gars qui a fait une réflexion dégueulasse. Et en fait, carrément, avec ma copine, on a blackout, on a avancé très très vite et genre peut-être 15 minutes après, on s'est dit toutes les deux, il va peut-être falloir en parler, on a entendu la même chose tout à l'heure et on s'est dit, on a entendu la même chose. Et quand c'est comme ça, vraiment, pareil que sur les réseaux, tout le monde ne réagit pas comme ça, chacun réagit comme il veut, mais moi, je ne réponds pas et j'avance.
Est-ce que tu as l'impression qu'il y a de moins en moins de messages virulents avec le temps? Où t'as l'impression que c'est tout pareil, tout égal, et que jamais on ne changera ces personnes-là, et que même si la société change et qu'ils voient que la majorité se dirige vers une acceptation totale et complète, où tu te dis, il y a juste pas de problème, en fait. Eh bien, t'as l'impression que ces gens-là ne changeront pas?
J'avoue que j'ai du mal quand même à voir un futur où tout le monde serait OK avec ça, tu vois. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent changer. Je pense, j'en ai vu, des gens qui ont changé. Mais je pense que tant que ça t'arrive pas à toi ou à une personne de ton entourage, c'est parfois plus difficile de développer cette empathie-là, malheureusement, tu vois. Mais j'ai vraiment déjà vu des gens qui, quand leur fils, leur fille, leur sœur, leur père, quand il y avait vraiment une annonce comme ça dans la famille, qui avaient vraiment évolué. Et donc, je crois fort en ça, moi, en le fait qu'au bout d'un moment, les personnes queer, elles vont arrêter de se cacher. Elles vont être elles-mêmes, et plus elles vont être elles-mêmes, plus elles vont inspirer aussi d'autres personnes à faire ce chemin-là, quoi.
Est-ce que tu as l'impression que les personnes queer se cachent encore, qu'il y en a encore beaucoup qui décident de se cacher, quoi? Je pense aussi, parce que quand tu te balades en rue, ça t'arrive peu, finalement, de voir deux meufs se tenir la main, ou bien de voir une personne travestie qui va se balader comme elle le serait dans le monde de la nuit, tu vois.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ça arrive très peu, quand même.
Ouais, ça arrive très peu. Moi, c'est quelque chose que je remarque, évidemment, tu vois, parce que vu que c'est ce que je suis, je le vois plus. Mais je vois quand même de plus en plus de couples de meufs se tenir la main. Mais par exemple, très peu de mecs, quoi. Je sais que c'est très compliqué pour eux quand même, ouais. Et pour les personnes trans, n'en parlons même pas, quoi. Ça, c'est, je sais que c'est extrêmement, extrêmement compliqué d'être soi-même, en fait, dans la vie de tous les jours. Ouais.
Alors justement, être toi-même, tu l'es toi.
Ouais.
T'es toi-même en rue, sur les réseaux, etc. Ouais. C'est quand même un cap de se dire, ok, je vais prendre mon vécu, le montrer sur les réseaux pour que ça avance finalement. Ouais. C'était aussi ça ton ambition, c'était d'aider certainement des personnes, mais aussi de montrer ça pour que ça se normalise finalement.
Ouais, complètement. En fait, comme je te dis, ça s'est fait tout seul. Au début, je n'osais pas du tout me montrer, donc j'étais cachée derrière une photo de profil mauve et je disais rien. Et puis finalement, ouais, j'ai montré mon vécu et je pense que c'était assez thérapeutique pour moi.
Aussi pour toi.
Ouais, alors. Vraiment, 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 de représenter un peu justement cette représentation que je cherchais quand j'étais toute seule à me poser des questions. Ouais, ça a été vraiment thérapeutique et je pense aussi que ça a changé pas mal de choses même dans mon entourage, parce que au bout d'un moment, le fait de voir que j'assumais ça entre guillemets au grand public et qu'il y avait tellement de gens qui étaient hyper ok avec ça, les gens de mon entourage finalement ils étaient là en mode on accepte pleinement, quoi, tu vois, c'était chouette.
Et ça débouche sur le mariage, alors. Vous le souhaitiez avec ta compagne. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de ça, de est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? Je suppose qu'il y a eu plein de questions, quoi.
Ouais, il y a eu plein de questions. En fait, à la base, on n'était pas du tout mariage, ni l'une ni l'autre. Elle m'a fait sa demande justement pour nos 10 ans, donc c'était en 2021. Et moi, j'avais un peu frisé, j'étais là en mode ouais, je suis chaude, mais quand, pourquoi, comment? Enfin, je me posais beaucoup de questions. Et puis finalement, avec le temps, on a décidé de le faire parce qu'on voulait se lier légalement, tout simplement. Et on avait envie de faire la fête aussi parce que je voyais beaucoup de mariages autour de moi. Et je me disais, c'est trop bien qu'ils célèbrent leur amour, en fait. Et je me disais, justement, nous, qui avons tellement eu du mal, tu vois, à ce que notre amour soit célébré, il faut le célébrer 10 fois plus. Et donc, on a fait une belle fête. Moi, j'en ai pas trop parlé sur les réseaux sociaux en amont, tu vois. J'avais pas trop envie qu'on sache quand c'était, où c'était, etc. Donc, j'étais assez discrète. Et puis, finalement, le jour même, c'est super bien passé. Et franchement, ce mariage, ça a été aussi beaucoup d'avancées, ouais, au sein de mes proches, quoi. J'ai vraiment vu un avant, un après mariage. Y a beaucoup de gens qui ont fait des efforts, qui ont montré, tu vois, de très belles marques d'affection et d'acceptation. Et ça, c'est vraiment important pour moi.
Est-ce que tu as l'impression que... Enfin, chacun vit comme il l'entend, évidemment, mais qu'il y a beaucoup de couples lesbiens, homosexuels, hommes, femmes, qui se retiennent de célébrer leur amour parce que, finalement, ils préfèrent que ce soit caché.
Oui, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui n'osent pas, en fait, passer ce cap-là. Et c'est triste, je trouve. C'est dommage parce que, justement, comme je te dis, c'est des amours qui doivent être célébrés d'autant plus. Après, je vois de plus en plus de mariages gays et lesbiens, donc ça me fait très, très plaisir. Mais je sais que pour certains, oui, c'est pas possible. Déjà, le mariage, ça touche aussi beaucoup à la famille. Et si ta famille n'accepte pas, c'est parfois compliqué, tu vois, de vouloir célébrer ça en sachant qu'il y a peut-être une partie de ta famille qui sera pas là, qui refusera de venir. C'est quand même touchy, hein, comme truc. Donc, je comprends ceux pour qui c'est compliqué.
Il y a pas mal de questions qui se posent, certainement.
Ouais, tout à fait. En fait, Nous, déjà, à la base, on a pris rendez-vous à la commune et franchement, les choses se sont plutôt bien passées. Bon, à chaque fois que tu as quelqu'un au téléphone, on te dit « oui, votre mari ceci, votre mari cela », c'est toujours comme ça, mais ça, je t'avoue que voilà, j'y prête pas beaucoup d'attention. Mais sinon, le reste de l'organisation, honnêtement, ça a été. On est tombé sur des prestataires qui étaient très chouettes, qui ont beaucoup partagé, même après, tu vois, sur les réseaux sociaux, les photos que je leur avais envoyées et tout ça. J'ai ressenti aucune appréhension, aucun jugement. Les gens étaient juste contents d'être là et de faire leur taf. Et d'ailleurs, la personne qui nous a mariés à la commune, c'est quelqu'un que je connaissais de vue. Et je trouve qu'il a vraiment super bien fait son travail. C'était hyper chouette. Il avait écrit des petits mots sur notre relation. Il s'était renseigné. Donc franchement, je ne sais pas comment c'est pour les autres, mais pour nous, tout s'est super bien passé.
Le mariage, du coup, ça s'est assez bien passé. Un autre fait marquant dans la vie, ça peut être aussi d'avoir des gosses. Pour avoir un enfant, ouais. Lorsque tu es un couple lesbien, il y a différentes manières
tout
de
à
le
fait.
Faire.
C'est ça.
Explique-nous ces manières.
Alors, on peut avoir la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Et donc là, en fait, c'est moi ou ma compagne qui allons porter un enfant. On trouve un donneur, il y a les ovules d'une ou de l'autre, et puis on porte l'enfant. Donc ça, c'est une option. Il y a aussi l'option de l'adoption, potentiellement. Je ne sais pas s'il y en a encore d'autres. Nous, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose pour lequel on ne se sent pas du tout prête. Et même si on l'était, en fait, on ne sait pas trop quoi faire. Ce que j'apprécie en tout cas dans ces options-là et dans le fait, tu vois, de ne pas pouvoir procréer comme ça naturellement un bon matin, c'est le fait que du coup on est obligé de vraiment y réfléchir. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve très bien et que je trouve qu'il devrait limite être un peu fait comme ça pour tout le monde, tu vois. Parce que du coup, tu y réfléchis, le temps de mettre la PMA en marche, le temps que ça fonctionne et tout ça, tu as le temps un petit peu de te désister, de réfléchir, de voir les choses autrement. Et donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Si on devait avoir un enfant, je ne sais pas ce qu'on choisirait. Parce qu'on a déjà parlé de la PMA, on a déjà parlé de l'adoption. Et en vrai, on ne sait pas, on est un peu perdu. Mais je pense que ça n'a rien à voir avec le fait d'être lesbienne parce que j'en ai plein autour de moi qui ont des enfants et c'est vraiment quelque chose qui paraît hyper naturel pour elles. Mais nous, je pense que c'est vraiment qu'on n'est pas prête.
En parlant de ça, il y a eu pas mal d'actualités autour de ça, autour de la PMA pour les couples lesbiens et autour de l'adoption pour les couples lesbiens et homosexuels. Qu'est-ce que tu aurais à leur répondre à ces gens qui ont milité contre finalement tout ça?
Je pense qu'en fait, c'est des gens qui doivent être vraiment pas bien dans leur peau, vraiment pas bien dans leur vie, je pense. Parce que justement, comme je te disais, à partir du moment où on est un couple lesbien ou homo et qu'on ne peut pas procréer, je vais dire, naturellement, on est obligé d'y réfléchir, on est obligé de le vouloir à tout prix. Donc en fait, tu as des gens qui, si ça se trouve, se sont réveillés un matin en se disant « Ah ben merde, je suis enceinte, c'était pas prévu, mais vas-y, on le garde », qui vont militer contre des gens qui ont parfois mis des années, parce que si tu prends un couple homo qui veut adopter, ça peut prendre mais des années, des années, des années. On nous pose énormément de questions, on doit vraiment dévoiler toute notre vie privée, etc. Ça peut être extrêmement compliqué. Donc en fait, si des gens ont fait toutes ces étapes-là pour avoir des enfants, je pense que vraiment, il n'y a pas de quoi critiquer, quoi.
Il y a tellement de freins, en fait.
Mais ouais.
Est-ce qu'il faudrait moins de freins ou est-ce que tu trouves que il en faudrait plus de l'autre côté, tu vois.
Ouais.
C'est ça aussi.
Moi, je pense quand même que, enfin, ça m'a toujours choqué, tu vois, qu'on puisse se réveiller un matin, être enceinte et se dire, bah voilà, c'était pas du tout prévu, j'en ai pas envie, mais bref, ok, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à avant, c'est un peu différent aussi pour les couples lesbiens, dans le sens où, à l'époque, on devait vraiment passer par le psychologue qui allait voir si on était apte ou non à avoir un enfant. C'est encore le cas parfois, mais pas toujours. C'est pareil pour les femmes seules, tu vois, il y a parfois beaucoup, beaucoup de contrôle. Et ça m'a toujours étonnée qu'il n'y ait pas du tout ce contrôle pour les couples hétéros, tu vois. Genre, pourquoi il n'y a pas un petit rendez-vous, genre pour voir si, ok, est-ce que tout le monde est bien, ok, est-ce que vous vous sentez prêt, qu'est-ce que vous avez mis en place, tu vois. Je trouverais ça bizarre qu'on puisse l'interdire, parce que c'est tellement, tu vois, un truc naturel que je vois mal comment c'est faisable. Mais par contre, au moins être un peu entouré, quoi, je trouve que ce serait pas mal.
C'est assez étrange cette disparité, en effet, où tu parlais des rendez-vous psy. Et en effet, les couples lesbiens et homosexuels, lorsqu'ils veulent adopter ou bien lorsqu'ils veulent procréer médicalement assisté, finalement, ils sont confrontés à ça et c'est assez dénigrant, je trouve, que ce soit... Enfin, soit c'est le cas pour tout le monde, soit c'est le cas pour personne, finalement.
C'est ça. Et il faut se dire qu'en plus, il y a des fois où c'est refusé. Hein. Donc, par exemple, tu peux être une femme seule, vouloir faire une PMA, dire que t'as un mec, et si ça se finit avec ton mec, on va te dire « non, alors ». Enfin, tu vois, c'est un truc de fou. Donc, ouais, c'est vrai que moi, ça, j'aime pas trop le fait qu'il y ait ce truc-là. Ou alors, effectivement, je trouve que ce serait juste que ce soit comme ça pour tout le monde, tu vois.
Toi, avec ta compagne, vous êtes pas prête, tu le disais.
Ouais.
maintenant, malgré tout, vous êtes... Enfin, il faut expliquer quand même aux gens que vous êtes un couple qui s'aime.
Oui.
Et qui est pas... qui n'est pas moins durable qu'un autre
tout
ou quoi que ce soit, quoi, tu
vois. Tout à fait. Ça va faire 14 ou 15 ans qu'on est ensemble, quelque chose comme ça. Je veux dire, si on voulait avoir des enfants demain, je n'ai aucun doute sur le fait qu'on ferait ça bien. D'autant plus que, tu vois, souvent, il y a la question de la représentation masculine. Tu vois, on nous dit genre, mais comment l'enfant va-t-il faire sans représentation masculine? Et en fait... Ce que je réponds souvent, j'en ai déjà parlé sur les réseaux, c'est de dire que déjà, dans la vie de tous les jours, de la représentation masculine, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un enfant, il ne risque pas d'allumer la télé et de ne pas voir d'hommes, ça n'arrivera pas. Donc déjà, des représentations masculines, il peut en trouver beaucoup. Et en plus de ça, finalement, masculin, féminin, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est une question de, un peu archaïque de bricolage et de savoir qui a le plus de caractère, ma copine, elle fait mieux le bricolage et elle porte des trucs plus lourds que mes deux frères réunis. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, avoir cette espèce de balance entre le côté un peu féminin, le côté un peu masculin, je n'ai aucun doute sur le fait que tout autour de moi, il y aura plein de gens pour lui montrer plein de représentations, tu vois. Et donc, parfois, c'est vrai que ça me paraît un peu fou qu'on soit toujours dans ce truc très traditionnel et un peu archaïque de se dire « il faut un homme fort pour lui montrer comment visser un truc, tu vois. Vraiment, on va s'en sortir. C'est gentil. »
C'est vrai que c'est très primaire, en fait.
Mais je comprends l'inquiétude des gens, parce que c'est vrai que ça a été le modèle un petit peu qui a été montré à tous depuis des millénaires. Donc c'est normal de se questionner là-dessus et de se dire mais comment l'enfant va faire, nanani, nanana. Mais en réalité, quand on regarde les études et ce qui se passe dans la vraie vie, les enfants sont quand même très heureux, quoi. Mmh. Tu vois, ça se passe quand même plutôt très très bien.
Magnifique.
Donc voilà.
Amicalement Gwyn, pourquoi ? Pourquoi
le
ce
nom
moment-là, ouais.
En fait, si tu veux, quand j'ai fait mon mémoire justement sur l'histoire et la culture lesbienne, je me suis rendu compte que dans l'histoire, il y avait vraiment énormément de couples lesbiens dont on disait « non, mais elles étaient amies, elles étaient colocataires, elles étaient n'importe quoi en fait, sauf reconnaître qu'elles étaient vraiment ensemble, en fait. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément énervée. Et il y a même un mème sur le sujet en anglais, ça s'appelle « They were roommates ». Et donc, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup. Elles étaient colocataires, elles étaient amies. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai mis « amicalement » pour dire « bah ouais, c'est ça, ouais, on est amis, vous inquiétez pas, on fait comme ça ». Et « Gwyn » pour le mot, genre justement, hyper argotique, tu vois.
Ouais.
Et mêler les deux, je trouvais ça trop marrant.
Alors, c'est marrant d'expliquer.
Et c'est ma compagne qui a trouvé ce nom, je le dis quand même.
Okay,
parce
d'accord.
que là, je prends tout le mérite, mais c'est elle qui l'a trouvé. Ouais.
Amicalement Gwyn, donc. Et tu parles de smoke Gwyn argotique. Mm-hmm. Tu l'aimes, ce mot?
Ben, en vrai, pas tant. J'apprends à l'aimer, justement, avec le conte. Mais c'est vrai qu'il continue de me choquer.
tu vois?
Alors que pourtant, c'est le nom de mon pseudo, mais il continue de me choquer. Je le sens, mais je crois que j'aime bien ça, tu vois. Et un peu, justement, essayer de dédramatiser de nouveau. Et tu vois, le mot queer, par exemple, c'est un mot qui, à l'époque, était vraiment un mot d'argot. C'est une insulte queer. Et aujourd'hui, ça remplit ce milieu. On parle de milieu queer, on parle de communauté queer, tu vois. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, le mot Gwyn sera justement un mot banal. Hein.
Justement, l'évolution de ce lexique, tu vois, parfois, quand t'es pas dans le milieu et que tu fais pas partie de la communauté queer, tu le suis pas. tu vois. Ouais. Et tu te dis, est-ce que ça va lui faire plaisir si je dis lesbienne ou elle préférerait que je dise green, tu vois. Comment est-ce qu'on fait, tu vois?
En fait, je comprends totalement, ça me fait rire. En fait, je pense que le mieux, c'est peut-être directement d'en parler à la personne, tu vois.
Tu préfères quoi, toi?
Moi, lesbienne, c'est très bien. Gwyn, ça reste un mot argotique et je suis pas encore méga prête à ce que ce soit un mot qui devienne un mot que tout le monde dit et tout ça, tu vois. Mmh. Alors que pourtant, bah ouais, c'est mon pseudo, donc forcément les gens vont me le dire, tu vois. Mais si on me dit, bah ouais, toi t'es Gwyn, je préfère qu'on me dise toi t'es lesbienne, tu vois. Ouais, c'est un peu plus chill. Mais j'ai des, enfin, tu vois, par exemple, je travaille avec des femmes toute la journée, particulièrement des femmes hétéros, et ben parfois elles me disent ouais mais toi t'es Gwyn et tout, mais je peux dire ça en fait, et je suis là en mode bah oui vas-y dans ce contexte-ci y a pas de souci, mais par exemple parfois venant de gens qu'on connaît vraiment pas du tout ou quoi, ça peut être un peu offensant, mais c'est mon pseudo donc tu vois. Je suis obligée de faire le tri quoi.
Ceux qui se placent plus sur le spectre hétéro, ils ont parfois peur de commettre des impairs, tu vois, quand ils veulent parler, finalement, de ton homosexualité, etc. Tu le ressens quand même.
Tout à fait, oui, oui.
Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils soient rassurés, finalement, tu vois?
Bah, en fait, je pense que... Moi, j'ai pas envie, justement, que toute cette sensibilité, un petit peu, d'un milieu qui a été fort... fort malmené, tu vois, face qu'on puisse plus avoir de conversation à propos de ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont plus radicales que moi et qui vont dire, moi, si les gens, ils ont pas les bons termes, qu'ils sont pas renseignés, etc., je parle pas. Moi, je suis très, très différente là-dessus parce que je pense justement que c'est en échangeant là-dessus, en éduquant et tout, qu'on va faire que les choses s'améliorent. Et je pense qu'il faut pas avoir peur en tant qu'hétéro de simplement poser la question. Est-ce que c'est OK si je dis ça? Est-ce que c'est OK si je dis ça? Même après l'avoir dit. Moi, je travaille du coup avec des femmes qui disent parfois tous ces mots dans tous les sens et puis qui sont là, oh, mais en fait, je peux dire ça ou pas? C'est OK? Et on rigole beaucoup parce que je suis là en mode, ben, tu sais quoi? Je t'explique, dans ce contexte-ci, c'est OK. On rigolait, on est très proches. Moi, je t'ai dit ceci, toi, tu m'as renvoyé ça, c'est OK. Mais par contre, si tu connais pas la personne et que t'arrives et que tu lui dis ça, ben là, c'est bizarre, tu vois. Et donc, je pense que, ouais, il faut pas hésiter à demander si c'est OK ou pas, finalement.
Alors, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'avancées, mais il y a aussi beaucoup de points qui stagnent au sein de la société, au niveau de l'acceptation, finalement, du milieu queer. Qu'est-ce qu'il faudrait changer en grande priorité, selon toi?
En fait, je pense que la visibilité, déjà, c'est beaucoup. Et donc, je pense, tu vois, par exemple, toi, tu m'invites sur ton émission et c'est vraiment super chouette. Je pense que ça doit arriver plus. Tu vois, à la télévision, dans la musique, peu importe, c'est peut-être de se dire, bah là, j'ai une opportunité à donner, tu vois, à une personne queer. Ben, c'est vrai que j'ai mon pote aussi qui fait du son le mardi soir. Ben, peut-être que là, je vais prendre la personne queer parce que peut-être qu'il y a de la visibilité là-bas qui mérite d'être reçue, tu vois. Et donc, je pense que, ouais, en priorité, c'est continuer cette visibilité, essayer d'en avoir de plus en plus parce qu'on ne se rend pas compte, mais ça aide beaucoup.
En plus de la visibilité qu'il faut donner pour finalement que ce soit accepté, etc., est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses à faire évoluer dans la société de toute urgence?
Moi, honnêtement, quand je pense à la communauté queer, je pense surtout aux personnes trans parce que je sais vraiment que les personnes trans, c'est vraiment chaud, 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 chaud. Encore maintenant, fort, fort, quoi. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail d'éducation à faire là-dessus. Et moi, ce qui me plairait, c'est en fait que justement, les personnes hétéros ou les personnes cis, plutôt, donc les personnes qui ne sont pas trans, se renseignent là-dessus et se rendent vraiment compte des difficultés. Je pense qu'en fait, même si moi, j'aime bien éduquer, partager, raconter, je pense qu'à un moment, il faut aussi que les personnes non concernées se renseignent vraiment sur le sujet. Il y a des documentaires qui sont très intéressants là-dessus. Il y a vraiment des choses à creuser. Et si seulement, tu vois, toutes les personnes non concernées regarder un petit documentaire ici, un petit documentaire là-bas pour se renseigner sur le sujet et un peu être plus empathique à ce propos-là, ça aiderait déjà beaucoup. Parce que dans mon entourage, j'entends peu de choses pas sympas sur les personnes homosexuelles et tout. Franchement, ça va. Par contre, sur la communauté trans, je me rends compte que les gens vraiment ont encore beaucoup de mal avec ça. Et donc, j'aimerais bien que voilà, chaque personne se renseigne encore un petit peu plus pour être un tout petit peu plus safe, tu vois, avec les personnes trans, quelles qu'elles soient.
Est-ce qu'on peut parler de ce processus-là qui s'appelle finalement, dans ce milieu-là, se déconstruire ?
Oui.
Comment est-ce qu'on se déconstruit ? On va partir dans des choses un peu philosophiques, etc. Mais il y a du surmoi. Donc, c'est la société qui t'impose de penser comme ça parce que tout le monde pense comme ça et il faut que tu sois comme tout le monde pour être accepté. Et dès lors, il faut se dire, ben non, en fait, la société m'a appris que c'était pas normal, mais ça peut l'être, ça l'est. Comment est-ce qu'on se déconstruit ?
Ben, je pense effectivement qu'on peut se déconstruire par le regard. Et donc, plus on va voir des choses en lien avec la communauté queer, plus on va voir des films, plus on va voir des documentaires, plus on va en entendre parler, et plus déjà on va déconstruire, tu vois, un peu son regard, sa pensée, etc. Ensuite, je pense que fréquenter aussi des personnes queer, quand on en a l'occasion, c'est chouette. Maintenant, bon, faut pas non plus que ça devienne un truc, il me faut absolument un ami queer pour que je puisse me déconstruire et comprendre, tu vois. Mais simplement, tu vois, par exemple, si t'es au travail et que tu vois qu'il y a une personne queer qui est un petit peu dans son coin et tout, ben, peut-être justement essayer d'aller apprendre à la connaître et la ramener un petit peu dans le groupe et tout. Je pense que ça, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Lire aussi, moi je lis très peu, j'ai une très mauvaise concentration, pardon, mais je pense que lire, ça peut être chouette aussi. Faut pas s'empêcher en fait d'aller vers ces ressources-là. Quand on a peur, justement, on a peur des mots qu'on va employer, on a peur de pas comprendre, faut pas hésiter. Il y a des livres, il y a des films, il y a des documentaires, faut vraiment aller vers ça, je pense.
Tu fais des expos aussi et d'autres choses comme ça pour essayer justement d'éduquer la société, quoi. Les gens qui finalement sont pas dans ce milieu-là aussi, mais aussi donner des exemples aux gens qui sont dans le milieu, quoi.
Oui, carrément. Et puis
c'est
fait,
c'est pour tout le monde, quoi.
Ouais, c'est vraiment pour tout le monde. Et ce que j'aime bien, en fait, avec, je fais beaucoup, que ce soit dans les expos ou dans ma vie, je fais beaucoup de podcasts, témoignages audio. Et je trouve que tout ce qui est témoignage personnel, c'est quelque chose qui marche très, très bien. C'est-à-dire que quand tu vois des choses à la télé, c'est bien. Mais quand tu vois une personne qui te ressemble un peu, beaucoup, qui dit ben, « Moi, en fait, j'étais hétéro et puis j'ai compris ci et ci et ça. » Ou « J'étais cisgenre et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais trans. » Tu vois, je trouve qu'il y a vraiment ce truc où tu peux vraiment aller capter l'empathie des gens. Et donc, moi, j'adore tout ce qui est témoignage audio, photo, etc. Et effectivement, c'est pour tout le monde.
C'est ce que tu vas proposer d'ailleurs ici à Liège dans quelques temps.
Oui, exactement. Donc, en fait, on a une expo qui arrive qui s'appelle Héritage Queer et dont le thème est la transmission entre les personnes queer. On avait déjà fait une première version l'année dernière et là, c'était vraiment des portraits en solo avec de l'audio de personnes queer qui racontaient simplement leur vécu. Et ici, on a des duos qui vont échanger justement sur ce qu'elles se sont transmises, tu vois. Et je trouvais ça vraiment super intéressant avec le collectif Lesbiche, notamment, avec qui je travaille en collaboration sur cette expo. On s'est vraiment posé la question de ça et de savoir qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'on échange, qu'est-ce qui est particulier comme échange entre les personnes queer.
C'est une transmission intergénérationnelle ou bien c'est une transmission aussi de la même génération de différentes personnes ?
En fait, il y a un peu de tout. On a des profils où c'est père homo, fille lesbienne, mère en questionnement avec fille en questionnement. On a vraiment plein de choses. On a aussi jumeaux-jumelles. Ça, je trouve que c'était un témoignage super intéressant. On a une maman avec sa toute petite fille qui discute un petit peu de tout ça. Donc, il y a un peu de tout, quoi.
Et donc, cette exposition-là, elle sera visible à Liège pendant quelques temps ?
Oui, tout à fait. Le vernissage se fait le 4 décembre à 19h et l'expo sera visible rue Maguin, numéro 11, donc au CVFE.
Je me rends compte qu'on n'a pas défini le mot queer, alors qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ça. Tu saurais le définir ?
Oui, en fait, donc le mot queer, à la base, c'était une insulte qui voulait dire bizarre en anglais. Et à l'époque, je ne sais plus dans quelles années, moi, mais il y a très longtemps, quand on voyait des personnes qui avaient l'air d'être homosexuelles, trans ou quoi, on les appelait les queers. Et en fait, aujourd'hui, le mot queer, il est utilisé de différentes façons. C'est soit un mot parapluie pour parler justement de toute la communauté LGBTQIA+, soit un mot que les gens revendiquent comme plus militant, tu vois. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont dire, bah, il y a la communauté LGBTQIA+, mais il y a les queers. Et dans les personnes queers, il y a un côté plus militant. Donc, dans tous les cas, pour moi, j'utilise beaucoup comme un mot parapluie, donc pour parler de toute la communauté sans dire l'alphabet, quoi. Mm-hmm. Mais il y a des gens quand même pour qui c'est plus sérieux que ça.
Ok. Tu parles des personnes donc qui se revendiquent plus militantes.
Ouais.
Est-ce que il faut continuer à l'être ou est-ce qu'on a atteint un seuil où finalement il y a toute une génération ou une grande partie d'une génération qui a accepté ça et qui on voit que au fil des générations ça évolue vers une acceptation. Est-ce qu'il faut finalement rester là et attendre que les autres personnes décèdent. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, je vois très bien ce que tu veux dire.
Parce que faire changer d'avis des personnes qui sont déjà assez âgées et qui ne souhaitent pas changer, c'est très compliqué de faire changer ce type de profil.
C'est très compliqué, tout à fait. Pour moi, franchement, il faut continuer à militer. Et ça, je le vois aussi, comme je te disais, dans les commentaires que j'ai, parce que c'est pas que des vieux qui commentent. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, et il y a beaucoup de jeunes, de très jeunes, qui commentent. Donc, il y a des gens vraiment de 13 ans qui vont commenter des trucs de fou, quoi. Et donc, pour moi, ouais, il faut continuer à militer, il faut continuer à avancer là-dedans pour qu'il y ait une réelle acceptation. Au-delà de la visibilité, au-delà du fait que, on n'a pas envie de nous tuer quand on va dans la rue, tu vois. Vraiment, ce truc où les gens comprennent vraiment et faire bien attention à la génération future, justement, comme je te dis, ça, c'est un truc qu'il va quand même falloir surveiller.
C'est étonnant que tu me dises qu'il y a énormément de jeunes qui commentent. Pourtant, ça devient, eux, la minorité, non? Parce que au début, c'était la minorité, les non-homophobes, j'ai l'impression, tu vois, il y a très longtemps.
Tout à fait.
Maintenant, ça devient eux, la minorité. Donc, c'est une manière pour eux de se revendiquer différent et dans la non-acceptation du mouvement, tu vois.
Franchement,
c'est très, très bizarre.
Je ne sais pas comment ça se fait, honnêtement. Dans la vie de tous les jours, je suis vraiment dans un microcosme où on sait que je suis lesbienne depuis 15 ans, tout le monde est OK avec ça, j'ai aucun problème. Dans les endroits où je me dirige naturellement, je rencontre très peu de violence ou de difficultés, mais je pense que malheureusement, il y a toute une partie de la population qui est justement hors de notre microcosme, dans lesquelles il se passe des choses quand même dont on ne se rend pas compte, quoi, vraiment.
Ici à Liège, d'ailleurs, tu parlais des médias qui devraient plus parler de ça. Et une des portes d'entrée, j'ai l'impression, des médias traditionnels, c'est les Prides.
Tout à fait.
On a eu donc la première Gay Pride à Liège, ce qui est faux, on en parlait
tout
à l'heure.
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que ça fait quand même des années maintenant qu'il y a une Pride qui est organisée à Liège, et elle est organisée par le collectif de la Transpédéguine. C'est un collectif hyper cool, qui bosse dur et tout chaque année pour faire des événements, des Prides, des trucs un peu plus chill, des trucs un peu plus soirées. Là, effectivement, il y a eu une nouvelle Pride, plutôt que la première Pride, une nouvelle Pride qui s'est faite, qui était beaucoup plus politisée, avec des chars, etc. Et en fait, forcément, l'initiative est bien. Moi, plus il y a de Pride, plus il y a de visibilité, plus je suis contente. Mais je trouve ça dommage parce que finalement, les médias l'ont un peu présenté comme la première Pride, alors que ça fait des années que la Transpédéguine travaille de son côté justement pour offrir ça aux gens. Et j'ai pas trop compris le collectif qui a organisé justement la Liège Pride. Justement, s'ils avaient des moyens et de la motivation, c'est trop dommage en fait qu'ils aient pas amené ces moyens et cette motivation dans le collectif qui travaille depuis des années pour ça. Donc c'est vrai que moi j'ai pas trop compris ce move-là. En tout cas pour moi, même s'il y avait déjà eu des Prides avant, la première Pride récente de Liège, c'est vraiment faite par le collectif de la Transpédéguine.
En parallèle de ça, est-ce que tu trouves qu'il y a plus d'avancées qui sont faites en allant militer dans la rue ou en faisant ce que tu fais ? Donc en étant sur les réseaux et autres, et en parlant sur Internet, quoi.
Bah, je trouve que c'est un très bel outil, effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. Maintenant, tout ce qui est militer dans la rue, moi, ça a quand même une place, je vais dire, spéciale dans mon cœur et dans le cœur en général de la communauté queer. Parce que c'est comme ça un peu que tout a commencé pour nous, entre guillemets, avec les émeutes aux États-Unis, qui se sont transformées en Pride, qui ont été des Pride dans tous les États-Unis, et puis qui sont venues en Europe et tout ça. Ça a été quand même une énorme avancée pour la visibilité et les droits des personnes queer. Donc, je suis toujours très fan de ça. Mais en tout cas, c'est très chouette qu'il y ait un nouvel outil comme les réseaux qui permettent, en tout cas pour la visibilité et pour le partage d'idées, c'est tellement rapide et c'est tellement effectif, tu vois, que c'est vrai que j'aime bien les deux, mais je ne saurais pas choisir entre les deux.
J'aimerais bien parler aussi d'un sujet dont on n'a pas encore parlé, c'est l'appellation LGBTQIA+.
Tout à fait.
Cette appellation-là, donc, elle a été élargie depuis maintenant quelques années.
Ouais, tout
mais
à fait.
L'époque, et j'en ai jamais parlé finalement avec une personne de la communauté queer,
ouais.
À l'époque, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, mais on ne sait plus où on s'arrête alors à ce moment-là,
oui,
etc.
Oui, »
Tu les as remarqué, tu l'as certainement entendu,
ouais.
les mêmes choses que moi. Finalement, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça?
En fait, je pense que les gens ont l'impression que c'est compliqué, mais en réalité, ça n'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire que tout comme, tu vois, par exemple, on va tous avoir une teinte de peau hyper spécifique à nous. Il y a des gens qui sont très blancs, il y a des gens qui sont très noirs, il y a plein de teintes de peau différentes. Et ben, dans le milieu queer, c'est pareil. Il y a plein de personnes avec des caractéristiques hyper différentes. Et donc, nous, on a essayé de catégoriser, enfin, je dis nous comme si c'était moi qui avais décidé, on a essayé de catégoriser au plus simple possible, mais en réalité, tu peux aimer un peu les filles et aimer beaucoup les garçons, ou aimer un tout petit peu les garçons, mais en fait pas tant que ça, mais finalement beaucoup, beaucoup les filles, ou aimer les deux exactement pareil. Même pour les personnes qui sont bi, tu vois, parfois je vais parler avec des personnes qui sont bi, et il y en a qui vont me dire bah, « moi je préfère quand même plus ceci que cela », tu vois. C'est comme les préférences, c'est comme les préférences alimentaires, c'est comme tout le type de préférences qu'on a. C'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ce qu'on ne croit. Et donc, c'est vrai qu'il y a LGBTQIA+, il y a queer, il y a tout ça. Mais en réalité, c'est juste à chaque fois une personne unique qui est devant toi et qui a une orientation unique, un genre unique. Et on a juste essayé de catégoriser pour permettre aux personnes qui ne sont pas concernées de comprendre. Nous, entre nous, on comprend très bien, tu vois.
Ouais. Est-ce que tu n'as pas l'impression que la société veut de toute façon mettre les gens dans les cases et que c'est pas si important,
si,
finalement?
Si, mais si, complètement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je dis beaucoup que toutes ces étiquettes-là, c'est des choses qu'on a créées en réponse un petit peu aux personnes hétéro qui pensaient que être hétéro, c'est la norme. Donc, toi qui n'es pas hétéro, explique-moi ce que tu es, qui tu es, et donne-moi des informations parce que je ne comprends pas, tu vois. Alors qu'en réalité, si on partait du principe que chaque personne était comme elle était, avec son orientation, avec son genre, qui peut être fluctuant, qui peut être différent, qui peut être ici ou là, ou là, ou là, bah en fait, on n'aurait même pas d'explication à donner, tu vois. C'est juste parce qu'il y a une norme qui a été décidée, et puisque la norme est là, bah, toutes les autres personnes doivent se justifier, tu vois.
On va dire peut-être le mot de la fin. Qu'est-ce que t'espères, finalement, pour la communauté queer dans les prochaines années? Qu'est-ce que t'aurais à dire à tes abonnés qui sont à la recherche de réponses sur comment s'accepter, etc.?
Ce que j'espère pour les prochaines années, je pense que simplement j'espère qu'il n'y ait pas de retour en arrière, quoi. Au moins qu'on reste comme ça. Et si ça peut aller mieux, surtout dans les pays où c'est vraiment gravissime, ce serait vraiment, vraiment cool que ça aille mieux. Ça, c'est ce que j'espérerais toujours, je pense. Et puis, pour le reste, ce que je dis souvent aux gens qui se posent des questions, c'est vraiment que voilà, il faut prendre le temps. Et c'est pas grave si on sait pas. C'est pas grave si aujourd'hui on ressent ci et demain on ressent ça. Faut se laisser tranquille. La société nous a tellement pas tant laissé tranquille que ça, tu vois, dans le passé, que si au moins nous, on peut se laisser tranquille, c'est déjà pas mal.
Super. Voilà. Merci Sacha. Et merci à vous d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter avec ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, je les poserai à Sacha sans problème. Et n'hésitez pas à vous abonner à son compte, donc Amicalement Gun, sur Instagram et d'autres réseaux peut-être.
Et TikTok et Spotify.
Magnifique. Merci
voilà.
Beaucoup Sacha et merci à vous. Ciao.